Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, formateur à la prise de parole en public et entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Chef d'entreprise, artiste sportif, mes invités créent, suivent leurs rêves et vivent la vie qu'ils ont choisie. Je m'intéresse à leur parcours, leurs échecs, leurs réussites, pour vous transmettre cette envie d'entreprendre et de mener une vie qui vous inspire, dans laquelle vous allez vous éclater. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Sylvie Violant, directrice de la scène nationale Carré Colonne et du Festival international des arts de Bordeaux Métropole. Dans cet épisode, Sylvie nous parle de son parcours, de son amour pour les arts et de l'importance vitale de la culture dans la cité et comment elle y participe en suivant ses envies, en créant un lien si essentiel avec les arts tout simplement. Elle a réussi à développer un lieu devenu en 2020 la 76e scène nationale, rien que ça, et on vous expliquera bien évidemment ce qu'est une scène nationale. C'est un échange génial accompagné par les oiseaux du jardin dans lequel nous avons enregistré et quelques notes de piano sur la fin de ce beau moment de partage. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Et c'est parti. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation, je suis très content de te recevoir.
Avec plaisir.
Je précise qu'on est dans un très bel endroit quand même, donc on va entendre des petits oiseaux, parfois quelques personnes au loin, et tu nous diras où est-ce qu'on est exactement. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît?
Oui, alors je m'appelle Sylvie Violant, je suis à Bordeaux, ou du moins par là, Saint-Médard, Blanquefort, Bordeaux maintenant, depuis pas loin de 20 ans maintenant.
Ouais.
Je suis poitevine au départ. J'ai aussi fait un petit passage à Paris pour mes études et mon premier job qui était déjà dans un théâtre. Mmh. Là, j'ai fait toute ma carrière dans la culture, dans des théâtres, scène nationale, festival. Là, depuis 6 ans, j'ai créé le Festival des Arts de Bordeaux.
Ouais.
Voilà, j'ai l'impression de rester au même endroit, mais de faire un peu quand même bouger les choses et de construire. J'ai l'impression d'être un peu, de bâtir un petit peu des choses plutôt que d'aller d'un point à un autre et de construire mon histoire un peu.
Ok, chouette, on va revenir sur tout ça justement. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite?
Ah, j'étais très scientifique. Je voulais être astrophysicienne ou géophysicienne.
Ah ouais, précis, ouais.
Voilà, j'avais vraiment quelque chose autour de l'immensité, mais c'est des problématiques existentielles qui se traduisent plutôt par des questions scientifiques, mais qui me lâchent pas en fait, même aujourd'hui plutôt dans le secteur de la culture, de l'émotion. Puis après, je voulais être journaliste.
Mmh. Sympa. Au collège, au lycée, plutôt
Non, au lycée, ouais. À partir du lycée, des études supérieures.
Ouais.
Là, j'étais vraiment dans l'idée de faire école de journalisme et le CFJ, c'était le centre de formation des journalistes à Paris. C'était pas une autre école, c'était celle-ci. Ouais. J'ai passé le concours 2 fois.
Ok.
Et je suis allée jusqu'au bout. C'était tout un processus avec 3 étapes, etc. Donc, je voulais être journaliste reporter d'image.
Et pourquoi ça ne s'est pas fait?
Eh bien, à chaque fois, j'ai échoué au dernier...
Ok, la dernière marche.
dernière marche. On n'était plus que genre 10, ils en prenaient 5. Au début, on était des milliers.
Ok, ouais,
Donc, c'était un peu rageant, ouais.
Ouais, j'imagine. Et alors, tu t'es tournée... tu as fait des études de sciences politiques à Paris?
J'ai fait des études d'abord d'économie.
Ok.
Mais ça ne m'a jamais plu, en fait. Ouais. Mais j'ai quand même fait 4 ans d'économie. Même. En plus, mathématiques, vraiment, statistiques.
Ah oui, genre bien, bien économie pure
et
dure.
Mais en fait, ça ne me plaisait pas. Je ne sais pas, c'était un peu une erreur d'aiguillage. Mmh. Et à partir du moment où je suis allée vers les sciences politiques, là j'étais à Nanterre, là j'ai découvert vraiment la sociologie. Bon, c'était vraiment bourdieusien. Et là, ça m'a passionnée. Et j'ai continué dans les sciences politiques, mais en m'orientant plutôt communication politique, communication publique.
Okay.
Communication, pas pour vendre des objets, mais vraiment dans l'idée de contribuer au bien-être, on va dire, social, d'être dans la communication vraiment pour des causes publiques. J'ai commencé avec l'information sur le sida et tout ça. Donc c'est mon premier stage, en fait. Voilà.
Ok. Et alors, tu n'as toujours pas parlé d'art encore ou de culture ? C'est arrivé quand, ce côté culturel ?
C'est arrivé pendant mes études où mon idée, c'était vraiment, OK, je fais faire de la communication, mais sur un domaine qui m'intéresse. Et là, j'ai découvert assez tardivement, finalement, le monde du spectacle à Paris. J'ai pas eu la chance, comme ont beaucoup de classes aujourd'hui, d'aller au théâtre avec l'école et tout ça, pas du tout. J'ai découvert ça plutôt par moi-même à partir de... du moment où j'étais étudiante, avec beaucoup le cirque contemporain, ce que j'ai découvert en premier, avec des compagnies comme le Cirque Plume ou Archaos. J'étais absolument, je ne sais pas si ça peut t'évoquer quelque chose. C'était très, très rock, très punk, avec de la musique à fond, des tronçonneuses. Très rock, le Royal de Luxe, toutes ces aventures aussi de Manu Chao et tout le Royal de Luxe qui partait. Cargo qui partent en Amérique latine et donc c'était ce mouvement, puis aussi par la musique, parce que étant à Poitiers, le Confort Moderne, qui est la première scène de musique actuelle de France, hyper en avance et tout ça, et toute la scène alternative qui passait au Confort Moderne, et moi c'est le Confort Moderne ouvre quand j'ai mon bac, quoi, donc c'est pour nous c'est génial,
un bon timing pour vous.
Et puis après à Paris, donc c'est petit à petit une découverte comme ça du spectacle, des artistes en général, de l'art, l'art contemporain aussi. J'ai pas dit, dans mes études, j'ai fait une année d'histoire de l'art en doublon de mes études d'économie,
quand même,
qui me plaisait pas pour m'aérer la tête. Et donc dès que j'ai dû devoir travailler, j'ai immédiatement voulu aller dans un lieu de spectacle.
Ouais, et dans lequel tu es resté pendant 10 ans, c'est ça ?
Non, j'ai d'abord été à Paris, dans la ville de Trappes, dans les Yvelines.
Mais oui, je viens des Yvelines. Donc
connais Trappes.
Alors, je ne connais pas forcément Trappes, c'est pas exactement là où je viens, mais je vois très bien où c'est.
Oui, c'est une. J'ai été embauchée à Trappes, ils venaient d'ouvrir. Un théâtre qui s'appelle toujours d'ailleurs la Meurise, qui était en plein cœur d'un quartier connu
pour resituer,
qui s'appelle les Meurisiers, qui était un quartier très difficile, qui doit l'être toujours, j'imagine, aujourd'hui, un peu comme le Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. Et donc je suis arrivée, mon premier boulot là, dans ce bâtiment tout neuf, au milieu de ce quartier. Dans un état difficile. Et ils avaient eu la bonne idée la très mauvaise idée, en fait. C'est ironique, de coller ce bâtiment au commissariat, en plein cœur du quartier, sans faire de rénovation. Donc, te dire qu'on n'était pas forcément hyper bien accueillis.
Ouais.
Donc, il a fallu faire vraiment tout un travail d'appropriation. Mais c'était quand même très dur.
J'imagine, Et donc, tu es resté combien de temps
Je suis restée un an.
Ah oui, d'accord.
Je suis restée un an et donc j'ai eu une proposition à Poitiers, dans ma ville natale, où j'avais fait un stage auparavant. C'était mon premier stage. Donc, j'avais été un peu repérée par le directeur de l'époque, qui arrivait aussi tout juste. Et à la scène nationale de Poitiers, qui m'a embauchée comme directrice des relations avec le public, ça s'appelait. Et donc, j'avais 25 ans et ce qui m'a fait aller de Trappes à Poitiers, c'est qu'il m'a proposé de participer à la programmation. Donc, dès ce moment-là, j'ai commencé. La programmation était collective. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai gardé, moi, après, en tant que directrice. Je ne fais jamais la programmation toute seule. parce que j'aime bien l'échange et tout ça. Et donc, dès l'âge de 25 ans, j'ai commencé à me déplacer, à aller voir des spectacles partout en France. Dans tous les domaines. Du coup, avec ma passion pour le cirque, j'ai emmené tout de suite le cirque contemporain que cette équipe, qui était vraiment plus traditionnelle théâtre, ne connaissait pas. Il m'a confié aussi, comme j'étais jeune, tout le travail à faire avec l'université. Donc, il mettait en place une carte jeune pour tous les établissements culturels de la ville, ouais, pour les étudiants. Donc j'ai été en charge de ça. J'ai créé un petit festival pour les étudiants, puis contribué à créer ce qui aujourd'hui est le festival Accor à Poitiers. Mmh. Festival de danse contemporaine, qui est parti d'un projet étudiant, enfin du SUAP, du service des activités physiques et sportives de l'Université de Poitiers.
Ok, voilà. Sympa, hyper chouette. Ça me fait penser que moi, quand j'étais étudiant à Lille, j'avais mis en place justement des tarifications avec le BDA, le Bureau des Arts. J'avais mis des tarifications préférentielles pour aller à l'opéra, pour que les étudiants aillent à l'opéra. Ouais. Donc, j'aurais pu, si j'avais été à Poitiers, et tout, on aurait peut-être été en
carrément
contact.
J'avais l'âge des étudiants avec lesquels je travaillais. Ah ouais. J'ai créé un réseau de correspondants dans toute la fac, puis après dans les lycées aussi.
Ouais.
Voilà, qui étaient comme des un réseau un peu privilégié avec lesquels je faisais des réunions, etc. Parce que ça se diffuse comme ça. C'est vraiment de travail de fourmi, hein, de donner un peu l'envie de fréquenter les salles.
Complètement. Et alors, est-ce que justement, commencer un peu à parler de ce sujet-là, même si tu en parles déjà, la programmation, comment ça se passe? Je pensais que cette question allait arriver plus loin, mais comme tu commences à en parler, la programmation, c'est quoi en fait? Et comment ça se passe après ça, tout le reste va découler.
Ouais, c'est pas une question simple en fait, cette question là c'est à dire que tout le monde pense qu'on s'amuse, on va voir des trucs et puis pour moi la programmation c'est vraiment comme une ligne éditoriale en fait, c'est à dire que on construit une histoire à travers une programmation. Qu'est-ce qu'on a envie de raconter à travers cette programmation? Quelle diversité on a envie de donner et puis quel parcours d'artiste? Au début, c'est vrai que quand on commence à programmer, on voit un peu peut-être les spectacles un petit peu comme des... Surtout quand on n'a pas la maîtrise de... Je programmais à Poitiers, mais je n'avais pas la maîtrise de la ligne éditoriale de la programmation. Je contribuais à la programmation. Donc là, on va voir des spectacles. Et puis, certains nous paraissent intéressants à montrer dans la ville où on travaille ou dans le théâtre où on travaille. Donc, on fait tout pour qu'ils viennent. Mmh. Et puis, petit à petit, c'est vrai que moi, mon travail, c'est plus centré autour des artistes plutôt que de leurs œuvres. Mmh. Vraiment de travailler sur les parcours des artistes, de comprendre leurs projets et de s'inscrire là-dedans et de les accompagner. Okay. Donc moi, aujourd'hui, c'est vrai qu'à la fois, j'apporte des nouveautés, évidemment, chaque année, mais aussi un grand accompagnement à certains artistes que je suis depuis très longtemps, depuis leur premier pas. Alors après, ça fait plaisir quand, je sais pas, quelqu'un comme Philippe Ken, qui a fait ses toutes premières expériences ici, que personne ne le connaissait et tout, et que maintenant, bon voilà, il a été directeur du plus grand centre dramatique de France, Les Amandiers, il tourne partout à l'international et il revient toujours, il a toujours sa fidélité, il revient maintenant ici, donc c'est... Ouais, ou Cyril Test, qui a fait ses tout premiers trucs ici aussi. Bon, maintenant, il vient plutôt au TNBA.
Sur Bordeaux.
Il y en a plein comme ça. Donc c'est vraiment... Ou Antoine Defort, qui est venu il n'y a pas longtemps, l'amicale de production. Thiago Rodriguez, qui est venu ici, qui est nommé au Festival d'Avignon.
Yes.
Donc c'est vraiment chouette quand même et cet accompagnement. Et puis après, là, avec ce qui s'est passé dernièrement, ces deux années, donc on est passé scène nationale en 2020. Mmh. Et donc, dans ce nouveau projet, j'ai demandé à deux compagnies qui étaient déjà très complices, avec lesquelles j'avais une très grande complicité, d'être vraiment compagnies associées. Et ça a été... Mais pendant ces deux années, on a pu faire ensemble des trucs incroyables. Et là, le partenariat a encore pris une dimension supérieure dans la mesure où on a inventé ensemble.
Ouais.
Et là, c'est encore autre chose. Et comment les artistes ont pris leur place dans l'équipe, dans le théâtre, dans la ville, et comment moi, j'ai pris un rôle plus important dans la conception des projets aussi.
Okay.
Et ça, c'est une vraie évolution assez... incroyable.
On y reviendra. Cette co-création, je sens qu'elle est chère à tes yeux, elle est importante. Ouais. Et justement, c'est en 2009 que tu crées... Non, si, je dis des bêtises. Le carré.
Alors moi, je suis arrivée au Carré en 2003.
En 2003, ouais, c'est ça, je me disais aussi.
Le Carré, c'était tout était à construire parce qu'avant, ça avait été le lieu de l'IDAC. Mmh. C'était le théâtre de Gironde. Moi, je n'ai pas connu, hein, je n'étais pas ici. Et donc, la ville venait de reprendre
donc, Saint-Médard en Jal, hein, quand on dit
ouais,
la ville.
Et de faire des travaux dans le bâtiment.
Ouais,
ouais, Saint-Médard. Mmh. Et donc, voilà, il y avait à construire. Il n'y avait pas... Il fallait tout faire, donc créer une petite équipe, créer une programmation, voilà ce que j'ai fait. Et ensuite, effectivement, à partir de 2008, vient l'idée de mutualiser le théâtre, la scène conventionnée de Blanquefort et l'établissement ici, Carré déjà, là, à l'époque, ça s'appelait.
Ouais.
Et donc ça, c'est un gros processus structurel, hein. C'est un gros travail structurel, politique.
On va y revenir justement.
Ouais, c'est comme une construction, ouais.
Complètement, parce que moi, parce que sinon on allait aller trop vite sur le Carré justement, parce que aussi on m'a expliqué certaines choses et il faut expliquer cette évolution, donc on va y aller petit à petit. Quand toi t'arrives ici, donc c'est la ville qui t'appelle ou c'est toi qui viens sur le projet, et quand tu commences au Carré, t'as quoi en tête?
Bah, j'ai en tête de faire ma propre programmation, en fait. Ça fait 10 ans que je suis à Poitiers, je suis passée secrétaire générale, je suis quasiment l'adjointe du directeur. Je contribue à la programmation, mais là, j'ai envie de faire mon programme à moi. Voilà, c'est ça que j'ai envie. Et puis, c'est pas du tout... Moi, j'ai pas du tout l'envie de pouvoir ou quoi. Par contre, c'est... J'ai toujours envie d'un peu plus de liberté dans mes choix. Et donc, le meilleur moyen d'avoir un peu plus de liberté, je ne sais pas, on en gagne à un certain endroit, on en perd peut-être à d'autres. C'est aussi de mener sa propre barque.
Mm-hmm,
donc, et je me souviens, j'avais mis un peu... Pour moi, c'était un peu un bateau, ce théâtre. Et puis, voilà, je pouvais devenir un peu capitaine du bateau et faire venir les artistes que j'avais envie de faire venir, des émergents, des gens plus de référence, mais tout ce dont je parlais là était tout à fait jeune à ce moment-là, émergent, et voilà, donc c'était vraiment ça que j'avais en tête.
Donc c'est à la fois cette envie de liberté, de faire ce que tu as envie de faire au niveau de la programmation, et alors ce lieu, donc 2003, ça ressemblait à quoi, et quand on dit lieu, c'est combien de places aussi pour qu'on puisse se rendre compte à quel point
C'est ce qui m'a plu ici, en fait, c'est que c'est pas un théâtre qui est ouvert le soir et fermé la journée. Ce qu'ils avaient créé, la ville, à cette époque-là, et je trouvais que c'était une super idée qui rejoint aussi, qui était un peu en avance, en fait, par rapport à ce qu'on cherche aujourd'hui. C'est un grand centre culturel où il y a le théâtre, la médiathèque, l'école de musique, l'école de danse, des salles de cinéma, une salle d'expo, et donc des pratiques amateurs, du dessin, de la musique. Et donc, c'est un endroit qui vit, qui est ouvert de 8h du matin à minuit le soir, tous les jours. Ouais. Et donc, moi, c'est ça qui m'a plu, c'est que c'est un endroit vivant, de vie, etc. Ouais. Et à l'intérieur de ça, faire une programmation pour... Donc, il y a une salle de 750 places, très belle salle, vieillissante aujourd'hui, elle date de 1970. Quand je suis arrivée, le bâtiment était juste rénové. Vous n'avez pas juste pas fait la grande salle, dommage. Bon, alors maintenant, avec le retour du vintage et tout, elle a retrouvé un certain cachet.
Non, mais 2-3 coups de peinture par-ci par-là et elle garde son cachet. Même pas,
tu vas voir, tout à l'heure, on va y aller. Tu vois, il y a Agnès Jaoui qui est passée il y a 2 jours là, et elle a adoré la salle, en fait. C'est vrai qu'elle a un rapport très chaleureux. Après, pour certaines formes, notamment de danse contemporaine, la courbe de visibilité n'est pas très bonne, etc. Okay. Mais bon, il y a toujours une bonne ambiance quand même dans cette salle. Donc 750 places, un plateau quand même où on peut quasiment tout faire. Et puis une autre salle qui avait été créée par la ville à l'époque pour faire un peu une salle de réception, une salle de bal. Moi, je suis arrivée, j'ai dit hop, ça, on l'équipe, tout le plafond, équipé technique. Et comme ça, ça fait une salle de création, petit gradin qu'on peut mettre où on veut, 200 places. Et donc, ça fait 2 salles, en fait. Et aux colonnes, puisque maintenant, il y a les colonnes, il y a une autre salle qui fait 260 places. D'accord. Très agréable, très, très, très chaleureuse aussi, qui a été rénovée. Les colonnes ont été rénovées il n'y a pas très longtemps.
Ok. Et donc, quand tu arrives en 2003, tu as cette vision à la fois, parce qu'il y a deux choses, à la fois faire ce que tu as envie de faire, déjà, et cette liberté, et après, cette vision de faire grandir la scène.
Oui.
Tu avais déjà, à ce moment-là, tu te dis, ok, bon, alors je reprends, mais il ne va pas se passer, ça ne va pas juste être un long fleuve tranquille, entre guillemets. Et on va se mettre des défis aussi, quoi, c'est
non,
ça.
Non, si je n'étais pas arrivée à faire progresser les choses, je ne serais pas restée, en fait. Effectivement, mon objectif, c'était de gagner des financements, mais
Il y avait une abeille au cas où, je me suis
mis une abeille sur mon bras, c'est pour ça que je me suis interrompue. Oui, de vraiment trouver des moyens supplémentaires, de faire connaître. Vraiment, pour moi, l'objectif, c'était tout de suite, en arrivant ici, que ce soit un théâtre à l'échelle de la métropole. Que ce soit pas seulement un théâtre pour Saint-Médard, mais aussi en fait, en 2003, dans la métropole bordelaise, il n'y a pas grand-chose.
Culturellement parlant, c'est...
Voilà, et en fait, ça s'est construit à peu près en même temps, le CDCN à Artigues, le TNBA avec l'arrivée de Richard Coconnier à cette époque-là, à Artigues, le CDCN avec Stéphane Lauré. Et voilà, il y a un paysage culturel qui se dessine à partir de là, mais il n'y avait rien. Le public, j'en revenais pas. Les gens ne connaissaient vraiment pas grand-chose à Bordeaux par rapport à Poitiers, par exemple, où il y avait une scène nationale depuis les années 80. Donc, il y a toujours, par rapport à d'autres villes, un grand retard en termes de diffusion de spectacles d'œuvres contemporaines, en fait. Danse contemporaine, théâtre contemporain, le retard, il ne s'est pas vraiment rattrapé. Mais donc, on va dire, à partir de ces années-là, il y a des jalons qui sont posés quand même, où le carré déjà le contribue grandement. Et après, évidemment, à partir de 2009-10, avec le carré colonne.
Ok. Et justement, 2009-2010, que se passe-t-il ? T'en as un petit peu parlé tout à l'heure.
Eh bien, il se passe que il y a un changement de direction. Il y a le directeur historique des colonnes qui avait créé les colonnes, Alain Duchâtel, qui était parti il y a quelques années. Nouvelle direction une directrice qui reste pas très longtemps, deux ans. Et voilà une interrogation de David de Blanquefort, se dire, est-ce que cette petite scène, voilà, dans quel état est-elle ? Pourquoi ils refont un appel à candidature, mais qui est quasi infructueux. Les gens viennent, puis se désistent. Donc, ils se disent, il y a un problème. Voilà. Et effectivement, il y a un problème, c'est que ça manque de moyens, le théâtre un peu vieillissant. Le maire de l'époque, Vincent Feltès, qui est aussi président de la CUB à l'époque, la communauté urbaine de Bordeaux, se dit peut-être qu'il y a un truc à trouver plutôt à l'échelle métropolitaine, et il m'appelle. et il me dit, voilà, vous pensez pas que peut-être on pourrait imaginer quelque chose de commun ? Alors moi, je trouve ça génial, en fait. Et donc, je lui ai pond un projet direct, 10 pages pour imaginer ce que ça pourrait être. Et voilà, et à partir de là, ça part donc à convaincre aussi la ville de Saint-Médard de se lancer dans ce projet qui est assez avant-gardiste, parce qu'après, il y a eu d'autres en France, d'autres mutualisations comme ça. Ça s'est pas mal fait pour mutualiser les moyens, mutualiser les équipes. Mais là, c'est un des premiers et c'est un sacré processus. Les colonnes, c'était une association. Et ici, c'était un théâtre municipal, c'est-à-dire qui dépendait de la ville, avec des agents municipaux. Enfin, on était tous contractuels. Et donc, créer une structure qui n'est ni une association, ni une régie, mais qui est un établissement public de coopération culturelle. Et le projet que j'avais écrit s'appelait un PAX. Projet artistique et culturel solidaire.
Ok, chouette.
Entre deux établissements, deux villes, pour quelque chose de... Ça a cartonné, en fait. La première saison commune que j'ai faite, ça a cartonné au niveau public. Tout d'un coup, ça posait quelque chose avec des moyens supplémentaires. Moi, mon objectif, c'était d'avoir des séries de représentations plus longues, pas faire venir les artistes pour un soir, mais pour une semaine. Ou au moins trois jours, etc. Et Hein, et là, c'est marrant parce que la première saison, il y avait une carte blanche à Opéra Pagaille qui est devenue 10 ans plus tard la compagnie associée, où ils proposaient 3 spectacles, dont Safari Intime, qui est un peu de leur spectacle mythique.
Ouais. J'adore à la fois t'entendre parler et voir aussi quand tu parles de tout ça. Et puis j'imagine, sur le moment, toi, avoir les deux, le fait que ça fonctionne bien, en fait, et ce que tu as mis sur papier, j'imagine, prennent forme en vrai, au final.
Et puis, l'idée de commencer, alors avec les colonnes, j'ai aussi hérité d'Échappée Belle, de ce festival assez extraordinaire.
Ouais.
On va fêter les 30 ans cette année.
Yes.
et aussi, j'ai vraiment saisi cette occasion pour commencer à aller à l'extérieur, faire du hors-les-murs. J'en faisais déjà, mais alors là...
c'est la fête.
d'être dans les théâtres, mais aussi commencer à aller partout où on peut aller, faire des excursions. D'ailleurs, le premier truc fondateur que j'invente pour dire ça y est, on relie les colonnes et le carré, avec l'association des marcheurs de Saint-Médard, je dis on va faire une randonnée qui va de Saint-Médard à Blanquefort.
Ok.
Le lien entre Saint-Médard et Blanquefort, c'est quoi? C'est la Jalle, cette rivière, donc qui passe à Saint-Médard en Jalle, et qui passe à Blanquefort, et qui se jette dans la Garonne, à Blanquefort. Et on dit, on va faire une randonnée au plus près de la rivière, au plus près de la Jalle. Sauf qu'en fait, on est dans le périurbain. Et c'est là que... je prends conscience aussi de où on est dans ce tissu périurbain qui est un peu méprisé, en fait. Moi, j'adore ce truc un peu. Alors, il y a une zone pavillonnaire, puis après des petits immeubles, puis une vigne, et puis un espace complètement naturel, et puis une entreprise, puis un petit rond-point, puis un autre rond-point, puis des ronds-points, il y en a beaucoup.
On est bon pour faire des ronds-points.
Alors, quand tu es en voiture, tu vois plutôt que de la ville, et dès que tu es à pied ou en vélo, tu vois que de la campagne, des maraîchers, la plaine maraîchère, des ines.
Ouais.
Et tout d'un coup, en étant à pied, tu te dis, mais en fait, c'est un puzzle, ce territoire. C'est un puzzle entre des endroits ruraux et de la ville. Ouais. Et de la ville qui s'est construite, faut bien dire, un peu anarchiquement, quoi. Mais c'est passionnant, en fait. Ouais.
Et donc, vous avez suivi entre les deux. Et donc
avec des artistes. Hein. Il y avait des artistes qui avaient participé à la randonnée, qui avaient des interventions régulières. Donc, on est arrivé à Blanquefort, on a pique-niqué.
Ouais.
On est arrivé à Majolan. Et puis là, il y avait 2 possibilités de rentrer à pied. Alors, ça faisait quand même 20 km. On avait prévu une petite navette de retour.
Ok, chouette. Et alors, j'ai envie de prendre ces 10 années 2010-2020, parce que 2020, vous passez scène nationale et on va expliquer ce que ça veut dire. Là aussi, t'as quoi en tête? Continuer de faire évoluer à la fois le théâtre? Enfin, je dis théâtre ou pas? Est-ce que c'est le bon terme?
Oui, moi j'appelle ça le théâtre, mais c'est générique. Ouais, effectivement, on y fait de la danse, on y fait de la musique, on y fait du cirque, mais voilà. Le théâtre, j'aime bien, moi, quand même, dire le théâtre.
Ok.
Ouais.
Ouais. Et donc pendant 10 ans, tu continues de le faire évoluer avec là aussi quoi en tête, si tu avais déjà des choses en tête, ou parce que tu l'as dit déjà, tu sors, tu vas un petit peu hors les murs, t'accompagnes d'autres compagnies.
Quoi en tête de d'ouvrir toujours, moi c'est ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres, aller dehors, aller à l'extérieur, explorer d'autres lieux, ouvrir des chemins, puis ouvrir aussi des esthétiques. Toujours découvrir, notamment à l'international.
Okay.
J'ai beaucoup développé dans ces années-là le rapport à l'international, comment on fait venir des artistes africains, latino-américains, syriens,
bientôt libanais, j'ai vu pour...
Libanais, le FAB dernier, en octobre, on fait un gros focus libanais. Ouais. L'international, puis l'accompagnement, c'est-à-dire... dégager quand même les moyens d'accueillir les artistes et de les soutenir en production. Donc, oui, continuer à proposer des programmations diverses, etc. Et puis, soutenir, produire, accueillir en résidence. Et quand je parle de l'international, c'est aussi dans ces moments-là où je crée... fait, c'est juste un peu avant 2008, je crée un festival qui s'appelle Des souris des hommes, dédié à l'international, et qui en fait après est devenu le Fab.
Ok. Yes.
Et donc ouais, 2015 en fait le Fab. Mmh. Donc c'est vrai que le carré colonne devient un lieu un peu stratégique pour les artistes parce ouais. que dans en Aquitaine, mmh. puis après en Nouvelle-Aquitaine, enfin surtout en Aquitaine, il y a des lieux de diffusion, mais ce qui manquait, qui manque encore, hein, c'est vraiment des endroits pour les artistes pour se poser, pour être soutenus, mmh. où il y a un peu des moyens,
ouais.
À la fois de résidence et mmh. Des moyens financiers mmh. pour soutenir le travail. Donc ça, c'est vraiment, ça devient quand même un point d'accroche fort pour ouais. les artistes en Aquitaine. Et après, pour moi, ce qui est important, c'est de faire rayonner aussi à l'échelle de la métropole. Et pour ça, c'est vrai que créer un temps festivalier, en mmh. plus de celui d'Échappée Belle, ça me paraît important.
Ouais.
Sur Bordeaux, où il n'y a pas vraiment... Alors, il y a ce Novart mmh. qui existait, un peu... voilà, qui correspondait plus trop à... qui était plus une... qui avait été créé comme une mise en comment dire une mise en lumière un peu d'ailleurs ça s'appelait Novart parce que c'était novembre mmh. mise en lumière de ce qui se passait sur la ville au mois de novembre mais il n'y okay. avait pas vraiment de point de vue de ligne éditoriale de
ouais.
donc moi ça me paraissait important qu'il y ait un Bordeaux un festival de d'art vivant de spectacle ouais. vivant quand même une grande ville ouais, une grande métropole et que ouais. ça n'existait pas hein,
voilà. ouais. Ok, je veux juste, on va y arriver ouais. sur le Fab, mais juste dans ce cas, est-ce que tu peux nous expliquer les scènes nationales parce qu'il y en a 76 ah oui. en France, c'est ça
77, depuis 77. Peu.
Oh, magnifique.
Nous, on est la 76e.
Ouais, ouais. Ok, parfait. Et ce cheminement, parce que si je ne m'abuse, enfin, je fais ce geste-là, mais on ne le voit pas, mais c'est en strat, en échelon un petit peu, ouais. c'est ça est-ce que tu peux nous expliquer en gros comment ça fonctionne, d'où vous êtes parti et pour oui. arriver là aussi, pour qu'on comprenne bien.
Oui, effectivement. En France, il y a un système qui est unique au monde, hein.
ouais.
Qui est issu de la décentralisation culturelle.
Mmh.
Malraux et puis Lang,
mmh.
qui décident que la culture, c'est pas que à Paris ou dans les très grosses villes, qu'il faut qu'il y en ait partout sur le territoire.
Mmh.
Et donc, ils créent des labels qui, au début, c'est des CAC, Centres d'Action Culturelle, dans les années... 80 et qui deviennent dans les années 90 scènes nationales.
Mmh.
Alors, il y a deux strates. Il y a scène conventionnée d'intérêt national, mmh. on s'appelle comme ça. C'est ce qu'on était en 2010. Ouais. Et ensuite, scène nationale, où là, effectivement, il y en a 77 maintenant. Mmh.
Donc, c'est des scènes hors Paris
ou, c'est ou des scènes hors Paris.
Hors Paris, ouais.
ouais. Alors, il y en a en région parisienne.
D'accord. Hein.
Il y en a à Malakoff, à Bobigny.
Mmh.
Et après, oui, plutôt dans des villes moyennes, en fait. Mmh. Et d'ailleurs, le choix n'est pas du tout fait. Par exemple, à Lille, elle est à Villeneuve-d'Ascq.
Ouais.
Ici, elle est pas au centre-ville ouais. non plus. Et c'est des lieux donc, qui doivent refléter la création contemporaine d'aujourd'hui.
Mmh.
Dans certains cas, quand c'est des villes plus petites, plus modestes, il y a aussi du répertoire qui est, que ce soit en théâtre mmh. ou en musique.
Mmh.
Mais ici, on a un opéra pour la musique de répertoire mmh. et on a le CDCN, le TNBA mmh. pour le théâtre de répertoire. Donc, ouais. Moi, je peux me consacrer à ce que j'aime, qui est la création contemporaine ouais. et vraiment les esthétiques
mmh.
contemporaines. D'aujourd'hui, enfin je dis contemporaine, ça fait un peu, mais vraiment d'aujourd'hui, quoi, ce qui se crée aujourd'hui,
ouais.
les évolutions, les derniers trucs, comment on fait de l'art, du spectacle aujourd'hui, de l'art,
mmh.
En toute simplicité en plus. Moi j'aime les choses simples et accessibles, voilà, ouais. mais qui, voilà, qui reflètent le monde d'aujourd'hui, quoi.
Mmh.
Et je m'éloigne, hein, je suis un peu
non, mais c'est très bien.
Tout le temps, moi.
J'en fais aussi tout alors, le temps, c'est très ouais. bien.
Donc, scène nationale, c'est ça. Alors, c'est des lieux de diffusion mmh. et de production.
D'accord. Okay.
C'est des lieux qui doivent être aussi des lieux de formation, qui sont aussi ressources hein, pour le tissu local, pour, pour le monde de l'éducation, pour le social. Voilà, on peut venir nous trouver, comment on fait un projet avec un artiste. Ça, c'est hyper important. On n'est pas que à dire, voilà, on fait des spectacles. Et...
Ouais,
non, non, on est vraiment là pour aussi monter des projets avec qui on a envie. Et puis moi, je ne parle même plus de, aujourd'hui de, d'éducation artistique, je parle de lien. Voilà, moi, j'ai même changé le nom des postes qui s'appelait relations publiques avant, après ça s'est appelé médiation. Je me suis dit, non mais médiation, ça fait vraiment comme s'il y avait un conflit quand même. maintenant, c'est chargé du lien avec l'enfance et la jeunesse, et puis chargé du lien avec les habitants, tout simplement. Et, et voilà, oui, cette question de, du lien, de nouer, ça c'est hyper important. Je, je veux vraiment que, qu'on soit dans un rapport totalement horizontal, avec à la fois avec les artistes hyper important mais aussi avec avec les personnes avec les gens avec le la ville avec les associations
OK. Et alors et le fait d'être une scène nationale, qu'est-ce que ça apporte aussi déjà, j'imagine, de la visibilité. Après, je me pose la question aussi depuis tout à l'heure, des moyens peut-être, des financements de l'État ou de la région ou enfin comment
Alors on avait déjà on est financé en tant que scène conventionnée puis même avant on a toujours été financé par la région, le département, les deux villes, la métropole et l'État. Mais effectivement, comme c'est un label d'État, scène nationale, c'est le plus
haut,
prestigieux, on va dire, en matière de pluridisciplinarité. Parce qu'après, y a, alors c'est très tiroir en France. Il y a les CDCN pour le théâtre, les CCN pour la danse, les pôles cirque pour le cirque. Okay, voilà. Les scènes nationales, moi, j'aime bien parce qu'on peut... tout mélanger. Moi, j'aime pas du tout quand on met les arts dans des cases, surtout maintenant où ça s'hybride beaucoup. Ici, là, je sais pas, moi, est-ce que c'est tous ces bambous, est-ce que c'est des arts plastiques je sais pas. Donc, qu'est-ce qu'on disait ? Oui, alors, effectivement, on devient scène nationale en 2020 et effectivement, c'est un apport supplémentaire de l'État, du ministère de la Culture, important. Important et qui on décide ensemble avec tous les partenaires de consacrer à la production, c'est-à-dire au soutien artistique majoritairement et puis aussi d'élargir nos territoires pas que à la métropole bordelaise mais tout le Médoc aussi tout ce territoire du Médoc qui va jusqu'à au Verdon, là-haut, à 100 km d'ici. Et donc, on a énormément de projets passionnants dans le Médoc, dont j'aimerais parler aussi.
Ouais, complètement.
Et ce label, enfin, ce qui me paraît intéressant, c'est que, donc évidemment, quand on rentre dans un label, on a aussi tout un tas de grilles d'évaluation. On a une convention pluriannuelle d'objectifs qu'il faut mettre en œuvre, qui est signé par tous les partenaires,
à la
des grilles d'évaluation de dingue, et puis il faut dire ce qu'on va faire sur 4 ans. Et par exemple, on m'a demandé de faire une grille où j'allais dire combien je fais de spectacles en 2024, combien je vais faire de spectateurs, combien je vais faire de projets d'éducation artistique et culturelle, et on était en pleine pandémie. Donc, tout était bousculé.
Ah bah ouais, ouais.
On faisait plus du tout de spectacle. Je faisais des on faisait des films, on faisait des semis, un jardin, des cartes postales sur la façade du carré, des cartes postales vivantes, tout ce qu'on pouvait faire, des semis de poésie. Donc, tout ça me paraissait complètement absurde de dire combien j'allais faire de représentations en 2024. Et donc, j'ai réussi, et je suis très fière de moi, à avoir une grille où il y a une petite graine, un petit plan qui pousse, un peu plus grand, et une belle plante sur la quatrième année, et pas mettre de chiffres.
Et ils ont, c'est validé, ça a été validé.
Tout le monde a signé ce tableau incroyable. Alors après, on mettra des chiffres, évidemment, on va les remplir chaque année. Mais après coup, ce qui me semblait important, c'est de pas dire de quoi va être fait l'avenir, de ne pas se planifier tout, mais de laisser la place aussi au contexte. Voilà, qu'est-ce qui se passe et comment on réagit. Et moi, je pense que même dans un cadre d'un label comme ça, où il y a des missions extrêmement... On a un cahier des charges très précis. il faut vraiment se laisser la place d'expérimenter. On est là pour ça, de faire de la recherche, en fait. Mmh. Parce que c'est là où ça rejoint ma géophysique de quand j'étais petite. C'est, je voulais faire de la recherche scientifique. Ouais. Et maintenant, je veux qu'on fasse de la recherche artistique et qu'on voit comment l'art contribue aux transitions d'aujourd'hui.
Ah bah, je vais te poser la question. Il y contribue ?
Ah, moi, j'en suis convaincue.
Ouais. Alors je me fais l'avocat du diable, je pose la question. Mais ouais.
Je suis convaincue qu'il y a des choses, tout ne peut pas passer par le rationnel et l'intellect. Mmh. On le voit bien, par exemple, sur la question de la transition écologique. Les scientifiques, ils alertent, et ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils alertent, plus que ça en vrai. Ils disent des chiffres, ils disent des trucs catastrophiques, on sait tous que c'est vrai.
Mmh.
Et est-ce que ça produit des changements
concrets,
de comportement Pas forcément. Et on l'a tous en tête. En fait, il y a un moment où c'est quand on ressent les choses et qu'on commence à... Par exemple, le plastique. On peut dire, ouais, le plastique. Non. Mais quand on commence à ressentir qu'est-ce que ça fait là, ce plastique, c'est qu'on commence à être presque dégoûté par quelque chose. C'est-à-dire que c'est par le ressenti et par ce qu'on a fait par notre corps ou par l'habitude d'être dans un autre type d'environnement qu'on va pouvoir changer nos comportements. Et on le voit bien, là, ici, tout d'un coup, ce qu'on fait avec ce jardin, on n'en a pas parlé dans ce jardin, mais on y fait des réunions d'équipe, etc. Tout est ici, bio, local. Maintenant, c'est impensable de faire autrement, en fait. Et les spectacles et les aventures artistiques, parce que je dis spectacle, mais je dis aventure, expérience, parce que tout n'est pas spectacle. Je pense que vraiment ça contribue aussi ouvrir l'esprit, alors sur la question de la transition écologique, mais sur d'autres on voit bien aussi, je parlais tout à l'heure de l'international, comment le fait de rencontrer des artistes d'ailleurs, comment on voit les choses complètement différemment. Ça n'a rien à voir de voir un spectacle écrit et fait par des Syriens plutôt que d'entendre la télé.
Globalement.
L'info. Ouais. Et même de lire. Voilà, c'est complètement une autre approche.
Un autre regard.
Une autre approche par le sensible, par les histoires individuelles, par... par quelque chose de beaucoup plus simple au final.
La simplicité. Je vais revenir sur le Fab, parce que si je reviens un peu en arrière, 2015, qu'est-ce que c'est et pourquoi le gérer aujourd'hui?
Le Fab, c'est ce que je disais, j'ai envie de créer un événement sur Bordeaux vraiment tourné vers l'international, qui accueille des artistes du monde entier, mais aussi avec un ancrage hyper fort dans la Nouvelle-Aquitaine. C'est-à-dire, c'est pas hors sol, c'est vraiment l'idée de que ça soit aussi un lieu pour montrer tous les talents de la région.
Ouais.
Bon, il se trouve qu'à ce moment-là, on est déjà en Nouvelle-Aquitaine, donc ça ouvre un peu le champ des possibles.
Ouais.
La région, elle est grande.
Elle est très grande.
Franchement, on a beaucoup, beaucoup de super artistes dans notre région. Et aussi l'idée d'aller dedans et dehors. C'est-à-dire proposer vraiment des choses en espace public. Donc le premier, c'est en 2016, premier grand événement en espace public, c'est les dominos. Donc ce parcours de dominos, de dominos géants, 5 km à Bordeaux de dominos, collectif, 300 bénévoles pour... faire tout ce chemin, c'est une super aventure. Et d'être vraiment dans le collectif, le participatif, en fait. Donc, c'est faire avec les artistes, mais faire avec les habitants, avec les gens, avec les personnes, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le festival. Il y a aussi ce projet que j'adore, moi, qu'on a créé avec Agnès Pelletier, qui est l'autre volubiliste, l'autre compagnie associée ici, qui s'appelle Panique Olympique, qui est une espèce de chorégraphie collective, comme un flash mob, mais sauf qu'on l'apprend en vrai. Enfin, je veux dire, c'est pas...
sur le moment, c'est pas préparé.
Pas sur les réseaux, ouais. Elle l'apprend aux gens avec des ateliers.
Ouais.
C'est que les flash mobs, on les apprend en ligne. C'est, c'est beaucoup moins sympa. et donc, c'est une chorégraphie collective. Maintenant, on a 10 villes partenaires dans la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, l'idée 2018-2024... Chaque année, une nouvelle chorégraphie pour un espace public différent, les quais, un chantier, une place, une rue commerciale, commerçante plutôt. Et donc, chaque année, cette chorégraphie, on fait grandir cette communauté de danseurs. 2024, les Olympiades culturelles, juste avant les Jeux Olympiques. 1000 danseurs à Paris et à Bordeaux, bien sûr.
Ouais.
Donc là, on est en train de travailler à 2024 parce que avant le Covid, on s'est dit avec Agnès, on s'est dit oh, ça va, on a le temps. 2024, on a le temps. Puis là, on sort de deux ans.
C'est dans deux
ans.
Non,
mais en fait,
c'est demain, ouais, en fait. et là, cette année, donc du 1er au 16 octobre, ça va être la 7e édition.
Ouais.
C'est ça. La 6e avait regroupé un petit peu plus de 30 000 personnes.
C'est ça.
Ça fait beaucoup.
Ouais, ça fait beaucoup. Et encore, on est dans des versions, on a été jusqu'à 60-80 000 personnes.
Okay.
Ouais. Là, c'était des versions un peu... On était un peu... depuis deux ans. Alors, le Fab, pas du tout... on est à chaque fois tombé dans une fenêtre où on pouvait jouer. Mais par contre, il y avait encore des contraintes sur l'espace public un peu difficiles. Donc, c'est vrai qu'il y a des gros, gros événements qu'on n'a pas pu faire. Mais quand même, cette année, la funambule Tatiana de la compagnie Basinga à la Benauge, extraordinaire. Un truc de dingue, moment de dingue. Moi, j'ai rarement vécu ça dans ma carrière. J'en ai pas dormi, en fait.
Ah ouais.
C'était,
mais c'est passé quoi pour ceux qui n'étaient pas là?
Eh bien, elle a fait une traversée à 35 mètres de hauteur entre un immeuble et une grue, 180 mètres de long sur un fil avec son balancier seulement. Et donc, c'est des traversées... C'est avec des musiciens au sol. C'est extrêmement impressionnant. Et donc, elle fait des figures tout au long de la traversée. Elle est... c'est encore une fois, c'est participatif. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui tiennent le fil, qui lestent le fil. Et c'est un... Il y a une cinquantaine des cavaletti, elle appelle ça, cavaletti, qui en fait tiennent le fil avec des lestes. Et ils contribuent à le lester, évidemment, il est aussi tendu. Hein,
j'imagine.
par des engins, mais donc c'est assez beau parce que eux, ils ont vécu un truc, un moment aussi... fou parce qu'ils sentent les pas sur le fil.
Ah bah ouais, toutes les vibrations transmises.
Et il y avait... c'était très beau parce qu'en plus, moi j'habite de ce côté-là, rive droite, à côté de la Benauge. Et de voir tout Bordeaux débarquer dans ce quartier où finalement, il est très beau ce parc, le parc Pinson, qui est au milieu des immeubles de la Benauge. Et du coup, de voir tout le monde arriver. Les habitants, ils étaient super touchés que tout Bordeaux vienne là, en fait. Donc, c'était très chouette. Ouais. Et puis, toute la semaine, ce n'est pas juste l'événement de la traversée. C'est toute la semaine, il y avait eu des ateliers avec le Festival Chahut. On avait travaillé à deux parce qu'on a vraiment un travail à l'année sur ce quartier-là. Donc, avec les écoles, avec le centre socio-culturel, on avait fait des ateliers dans le parc toute la semaine avec les enfants, tous ceux qui voulaient, les écoles, les centres de loisirs pour initier à l'art du fil.
Qu'est-ce qui t'anime dans tout ça?
Je crois que c'est de partager ces univers artistiques avec le maximum de gens. Que quand je vois les gens qui sont contents, ben moi ça me va, quoi.
Oui, après, pour être content avec un événement de 100 personnes, je veux dire, tu aurais 100 personnes contentes.
Ah oui, mais ça me va aussi. Ouais, parce que l'an dernier, là, j'ai fait des petites balades, des randonnées philosophiques. J'ai fait croiser un philosophe et un artiste sur des thèmes autour de la nature, l'habitat, l'animal, les plantes sauvages, le sauvage. Et à chaque fois, il y avait Manuel Ecochia, il y avait Mazarine Pinjot, on avait du haut vol, hein, de philosophe, et puis du haut vol, un artiste. Puis il y avait, ouais, c'était pour une centaine, 150 personnes. On ne pouvait guère faire plus, parce que c'était des randonnées. Ouais. Puis on s'arrêtait en pleine nature, un petit spectacle, on se arrêtait. Et j'adore aussi les choses pour, comme ça, en intimité, bah, ce jardin, c'est que de l'intime. Hein.
Ouais.
Donc c'est, mais c'est ouais, c'est vraiment, moi en fait vraiment c'est l'aventure, je crois. C'est-à-dire quand c'est trop plan-plan, quand c'est attendu, j'ai envie que la découverte de l'art soit comme une aventure, comme une excursion, comme un chemin, comme un, voilà, un truc qu'on, un passage secret qu'on ouvre et on découvre quelque chose de nouveau. Voilà, vraiment la découverte.
Ouais.
C'est voilà, de ressortir pas comme on est rentré tout à fait.
Transformé un peu au final.
Ouais.
Ouais.
J'aime bien quand on vit les choses. C'est vrai que c'est pour ça que je fais beaucoup de projets qui sont à la limite de l'art et de la vie, en fait. Oui. C'est-à-dire, c'est pas, c'est si petit à petit, ça peut être une façon de vivre quasiment, ou c'est, voilà, ce qui est trop extérieur et quand il n'y a aucun lien, par exemple, entre ce qui se passe sur une scène, et c'est plus difficile pour moi. Mmh. J'aime bien vraiment quand il y a quelque chose qui... Alors, il se passe toujours quelque chose.
Oui.
Après, quel est le niveau de relation ? Bah, évidemment, toutes les esthétiques relationnelles, moi, c'est mon truc. Hein.
Ouais. Mmh. Justement, tu parles de lien et tu as beaucoup, et même avant qu'on commence cette interview, de parler de semer. Mmh. Et tu peux nous parler justement, donc, confinement, la salle ferme, et puis il se crée de belles choses. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, alors... ça s'est passé, en fait... Quand on a refermé les théâtres, donc après le FAB 2020, donc ça avait rouvert, on a fait le FAB, etc. Et puis paf, en novembre, on referme les théâtres. Novembre, on pensait qu'on allait rouvrir en janvier 2021. Puis moi, je vois bien que ça va pas se faire, que les chiffres augmentent, machin. Bon. Et dès janvier, je dis non, mais là, il faut. Je commençais à me dire. Là, les gens vont vraiment très mal. C'est pas, enfin, il y a un truc qui tourne plus rond, quoi. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et j'en parle avec Cyril Jobert, le directeur de la compagnie Opéra Pagaille, directeur artistique, notre compagnie associée. Et vraiment, mon idée est partie de l'idée de réconfort. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais Cyril, qu'est-ce qu'on peut faire quand même pour faire quelque chose ? On a le droit de rien. Mais donc, on n'a pas le droit de faire des spectacles. On faisait beaucoup de résidences. Hein, le théâtre 2020, plein d'artistes tout le temps. tout d'argent qu'on passe en production. Ouais. Mais ça se passait à l'intérieur.
Ouais.
Donc, nous, effectivement, on bossait. On ne pouvait pas pas qu'ils viennent voir une sortie de résidence, tout ça. J'avais fait des sorties de résidence au balcon et sur les toits, parce qu'on n'avait pas le droit d'aller au milieu du public. Mais bon, là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc, on avait tout un projet ensemble qui était écrit, mais on n'avait pas encore commencé, de métamorphose du carré. Métamorphose vers le vivant, en transformant le hall en serre à semis, en mettant des ruches sur le toit. Et voilà, un projet de long terme. On ne pouvait pas le faire. Puis si, mais quand même, on pourrait peut-être faire des semis. Puis on pourrait faire des semis de musique et puis des semis de poésie. Et puis on ne dit rien à personne, on ne dit rien à la préfecture. Ce n'est pas des spectacles, c'est des semis. Et donc, et puis il me dit, non, mais on peut aussi faire des vrais semis. Ah bah oui. Et alors, on est parti. On prévoit tout ça pour mars, donc la semaine du printemps, mi-mars 2021. Une semaine de semis. On met des postes à semis sur la place devant le carré. On a l'accord de la ville, on dit rien à personne d'autre. Et on respecte hein, les règles. Il fallait être 6 personnes maximum dans l'espace public. Mmh. Couvre-feu à 18h. À 18h, on arrêtait tout. Ouais. Et puis, on envoie des musiciens aussi faire des semis de musique à la sortie des écoles. Le matin, il y a un carrelé sur le toit du carré. Un musicien, un saxophoniste qui sonnait en fait la journée, matin à 8h pour dire il va se passer un truc dans cette ville.
Ouais.
Et donc, on se met tous en jardinier, les acteurs de la compagnie, nous, l'équipe du théâtre, on fait un grand roulement avec des postes à semis, de la terre, des graines. Belle scénographie faite par Opéra Pagaille, des petits panneaux pour dire comment on s'aime, puis... Et là, les gens viennent, ils passent, ils voient ça. On avait rien annoncé. Hein. Et à la fin de la semaine, on se retrouve avec 750 pots. Et ce qu'on dit aux gens, on dit... donc, sur chaque pot, ils marquent leur prénom, ils marquent leur quartier ou leur ville, et un numéro. Et on a un grand registre. On prend le numéro, le prénom et un mail.
Ouais.
Et puis, on leur dit, voilà, ce que vous plantez là, ça va être votre double végétal. On est désolé, mais vous n'avez pas le droit de rentrer dans le théâtre. Par contre, votre double végétal va rentrer dans le théâtre et je vous promets, on va en prendre soin. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc, on a transformé le hall en serre. Alors, il y a un puits de jour, donc ça tombe bien. en serre à semis, on a installé tous les semis. C'était très beau, tous ces pots, 750 pots de toutes les tailles, avec les prénoms des gens. C'était trop beau, c'était hyper émouvant. Et là, on s'est mis à s'en occuper, réellement.
Avec, changement de métier.
Notre technicien, notre régisseur, Laurent, qui flippait complètement. parce que tout d'un coup, la responsabilité, on avait dit, c'est votre double végétal. Donc, faut pas que ça meure, quoi. C'est horrible. À chaque fois, il y a un prénom dessus. et on prenait des photos. On a commencé à prendre des photos. Et là, Cyril a eu une idée de génie. Il a inventé la news laitue. Et la news laitue, c'est pour donner des nouvelles aux gens de leur semis. Donc, dans la news laitue, il y a les photos. Des premiers trucs qui poussent et tout ça. Et puis, qui racontent comment une équipe d'un théâtre se retrouve à s'occuper de 750 pots. Et donc, il raconte les histoires des tournesols qui poussent trop vite, des pots, là, on se demande, du régisseur qui ne dort pas de la nuit, de la directrice qui pousse des cris de joie quand ça commence à pousser, etc. Et donc, au début, c'est vraiment un peu la réalité, puis petit à petit, il s'échappe dans une fiction d'une équipe de théâtre envahie par le vivant, en fait. Et puis, il commence à raconter aussi une fiction des musiciens jardiniers, d'une tradition ancestrale du pays des Jalles, où il y a des musiciens jardiniers, etc. Et donc, ces deux fictions se mélangent. Alors, ils racontent des réunions d'équipe, mais nous, on était morts de rire. On boit tous du lait fraise. Et les gens, ils croyaient que c'était la réalité. On boit tous du lait fraise en se demandant ce qu'on va faire des semis. Et en fait, ils racontent effectivement toute l'histoire de toutes les questions qu'on se pose. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ces semis? Parce qu'au bout d'un moment, ça devient vrai, ça. Et après, ça pousse. Alors, à un moment, il y a des petits soucis avec les semis. Donc, on fait appel à un maraîcher pour qu'il vienne faire un diagnostic. Docteur Gratadour, c'est un maraîcher des Innes avec lequel on a déjà fait des spectacles et tout ça. Qui vient, il dit non, mais là, la température est trop constante dans le hall. Il faut les sortir, ces semis. Sauf qu'on est on les sort sur le toit, on met une petite serre. Sur le toit, on monte les 750 pots. et là, malheureusement, il y a période de gel. Et puis après, il fait très chaud la journée, trop froid la nuit, et ça va pas non plus. Là, c'est par contre, il y a trop d'écart. Donc tout ça, ça devient une espèce d'aventure épique, la news d'étude, de drame shakespearien, je sais pas, avec ces histoires de semis. Et puis, petit à petit, finalement, on s'occupe bien quand même des semis des gens et des plants. Et ça pousse bien. Et on se dit, non, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Puis c'est vrai qu'on a, on a, On a fait tout au fur et à mesure. Et c'est, bon, alors moi, mon idée, c'était au départ, bon, on va mettre ça dans les... Il faut que ça reste collectif. On ne va pas redonner chaque plan aux gens pour qu'ils aillent le mettre dans le jardin. C'est... Non, il faut que ça continue à être une grande aventure collective et des moments de rassemblement. Tout le monde a besoin de ça.
Ouais.
Et donc, on dit non, mais on va les planter dans les bacs de la ville.
Mmh.
Et puis là, on se renseigne et tout ça. Non, non, mais c'est pas possible. Saint-Médard, c'est ville fleurie. Et puis tous ces bacs, ça appartient à Métropole. Bon, bon, des trucs trop compliqués. Ouais. En tout cas, on pouvait pas le faire. Donc non, mais il faut qu'on trouve un endroit, on va. Et alors, Cyril se met à arpenter la ville et tout ça. Et il arrive ici. Ah, ici, c'est un terrain vague. Il y a des ronciers partout et tout ça. Mais c'est magnifique. Il y a ces vieilles écuries ici.
Ouais.
Qui sont les écuries du château d'à côté.
Mmh.
Et puis là, cette bambouseraie immense, immense, ouais, avec des bambous qui font 10-15 mètres de haut. Derrière, tout ce parc, 24 hectares de forêt sauvage, domaine privé, pour l'instant. Et la ville qui a racheté, en fait, on apprend que ce terrain-là, espèce de terrain vague, très beau, à la limite de cette forêt, appartient à la ville. En fait, ça fait partie des terrains qu'ils ont rachetés. Et donc, bah, on leur demande. Et puis, la ville de Saint-Médard, qui a suivi notre aventure des semis, qui est venu, le maire est venu semer une graine, etc. Ils nous disent, oui, allez-y.
Ouais.
Et on devient, on signe un bail. Mm-hmm. On devient, alors on dit, qui, la scène nationale, Opéra Pagaille. Non, non, on est colocataire.
Okay.
Donc on signe un bail de colocation à la ville. Et puis là, fallait activer. Hein. 15 jours et Opéra Paillette transforme cet endroit complètement. Donc que du local, les bambous ils sont pris sur place.
Mm-hmm.
Le compost, c'est les grandes jogues ici à Saint-Médard qui fait de la transformation notamment des cantines.
Mm-hmm.
Des déchets organiques,
ouais.
Et puis le bois qui vient du Médoc, parce que là ils ont quand même un menuisier, Benoît, qui est le menuisier d'Opéra Pagaille, qui crée ces cabanes magnifiques. C'est lui qui a créé le carrelé aussi qui est sur le toit du carré, absolument magnifique. Et donc il faut tout défricher, tout à la main, et puis ensuite préparer le terrain à la grelinette. Hein, pas d'appareil
électrique, on va dire.
Ouais, électrique. On se dit, mais là, on est un peu au bout de nos compétences. Faut qu'on recrute quelqu'un pour s'occuper. Après, on va planter quand même 750. C'est pas 750 légumes. Il y avait des légumes et des fleurs potagères.
Okay.
Mais quand même, tout ça, faut s'en occuper. Et on passe une annonce pour recruter un ou une maraîchère. premier théâtre à avoir recruté.
C'est génial. L'annonce devait être jolie.
On passe cette annonce.
Ouais.
Dans tous les organes professionnels, enfin bon, c'est drôle. Et puis en même temps, Cyril me dit, mais quand j'ai semé, il y a une personne qui est venue et qui m'a dit qu'elle travaillait là, qu'elle arrivait, qu'elle était maraîchère bio, qu'elle arrivait à Saint-Médard depuis peu et que elle travaillait c'était un peu dur quoi, au rayon, voilà, d'un grand supermarché, au rayon jardin. Et donc dans la newsletter on fait un petit appel, on dit vous êtes venu semer, on se souvient plus, mais on sait que vous êtes maraîchère et que vous arrivez juste à Saint-Médard. Elle reçoit la newsletter, elle voit et c'est Barbara.
Ouais, c'est chouette.
Qu'on a embauché. C'est génial. Ouais, cette histoire est incroyable.
Ouais.
Et Barbara, depuis, ça fait plus d'un an qu'elle est dans notre équipe. Après, j'ai complété pour l'hiver son temps de travail. Donc, on est tout passé aussi bio, local, pour tout de la restauration pour le public. Pour les artistes, on le fait depuis des années.
Ouais.
Mais pour le public, c'était un prestataire, on ne trouvait pas. Là, et donc, c'est Barbara qui a repris aussi, qui fait les soirs de spectacle. Alors, les gens la retrouvent, ils viennent au jardin et la retrouvent. Bon, bref, je reviens à mai 2021.
Ouais.
Là, on fait les plantations de mai et on rappelle tous les gens qui avaient planté.
Mmh.
via la newsletter, toujours, on a un organe hyper efficace. et on leur dit, voilà, c'est les plantations, on leur donne rendez-vous sur la place et on les accompagne pour découvrir ce jardin. Et en fait, c'est magique parce qu'on a fait appel à des plasticiens, des scénographes. Et donc, il y a toutes ces constructions en bambou. Donc, ce n'est pas qu'un jardin potager, c'est un jardin artistique.
Complètement.
Et donc, ils découvrent ce jardin. Et donc, ils peuvent planter leurs plants. Et puis, évidemment, on continue à semer et à grandir. La question, ce n'est pas de rester sur nos 750 semeurs et semeuses du début.
Ouais.
Donc, on a grandi la communauté. Aujourd'hui, on est à plus de 1500 semeurs et semeuses. Puis là, depuis hier, on fait la saison 2 des semis de printemps. Ouais. Et donc là, à nouveau, il y a des gens qui viennent semer pour cette nouvelle saison du jardin. Donc, notre jardin est quand même devenu un peu célèbre. Parce que c'est une expérimentation assez extraordinaire pour un théâtre. Ce qui est assez, et c'est pour ça que je tenais à faire aussi aujourd'hui cette conversation ici. Parce que pour nous, c'est aussi devenu un lieu de travail. C'est-à-dire que là, moi, je me suis installée là pour les 4 jours, comme on rouvre le jardin là, au public. Je me suis installée là, avec mon ordi et tout. Alors bon, il n'y a pas de réseau, hein, mais je fais avec mon téléphone. On fait les réunions d'équipe, on les fait là. Et ça change vachement le rapport. Quand on fait des réunions institutionnelles, on a le Christopher Miles, le grand chef du ministère de la Culture pour la création, direction générale de la création artistique, TGCA, qui est venu en visite ici. On a fait la réunion ici au jardin.
Ok, ça doit changer, ouais.
Voilà, on explique notre projet, etc. Mais c'est un autre rapport aussi, enfin, le fait d'être là. Je trouve que moi, je crois beaucoup à un nouveau mode de relationnel aussi, beaucoup plus abaissé, de ne pas être dans des relations de pouvoir du 20e siècle, quoi, pour résumer, un peu dur, d'être... dans d'autres modalités. Il y avait le spectacle d'Antoine Defort qui parlait de ça, là. Qui s'appelle Elles sont vivantes. Il parlait des idées, c'est les idées qui sont vivantes. Et donc les idées, comme elles sont vivantes, il faut qu'on les fasse circuler et qu'on ait des modalités de débat et de travail sur les idées qui ne soient pas des modalités d'affrontement pour qu'elles puissent continuer à vivre et pas des débats où on s'affronte un peu stérilement. Et donc, je trouve que c'est le bon contexte aussi pour parler et discuter et travailler les idées, faire évoluer nos comportements, nos façons de faire, nos façons de travailler de manière un peu positive, différente. C'est des transitions aussi, ça.
Complètement, mais c'est des belles transitions et qui, j'espère en tout cas, on sera amené à faire de plus en plus comme ça. C'est le faire ensemble, le co-créer, comme tu l'as dit, le lien avec le vivant aussi, quoi.
Oui.
Avec le vivant sous toutes ses formes.
Oui. Et les gens viennent ici, hein. Là, on va ouvrir dans quelques minutes. Les gens viennent toute l'année, en fait, ici. Ils viennent. Ils viennent semer, ils viennent discuter avec Barbara, voir comment elle fait, se poser. On y fait des choses aussi, hein. Mais moi, je souhaite pas que ce soit un nouveau lieu de diffusion. C'est pas une nouvelle salle de spectacle ici, ce jardin. C'est vraiment, on a fait des ateliers philo. On fait des réunions, comme je disais. On a fait nos présentations de saison pour le public aussi. On a fait venir des chanteurs d'oiseaux qui communiquent avec les oiseaux. Être un peu un petit décalage quand même par rapport à... là, on est en train de construire un four chaux-paille avec une méthode traditionnelle, donc avec de la chaux et de la paille et de l'argile, qui pourrait être aussi un endroit pour la convivialité. On va pouvoir faire cuire du pain, des pizzas, de la focaccia.
Trop cool. Comment tu définirais à la fois... la question de départ, c'était comment tu te définirais dans ma tête, mais je me dis, comment tu définirais ta touche, ta patte sur cette scène nationale, pour le coup, même si c'est un tout, on l'a bien compris, mais qu'est-ce qui fait qu'elle est différente, ou pas, d'ailleurs, des autres?
Ah, c'est difficile, hein, ça, comme... C'est toujours le plus difficile, je trouve. Les gens voient bien, je crois. Ils voient bien ma patte. Ils me le disent. On reconnaît ton univers et tout.
Ouais.
Mais quand moi, je dirais, c'est un... Bon, il y a ce côté aventureux, un peu. Toujours essayer des trucs nouveaux. Ça me caractérise. Je peux pas faire toujours la même chose. Alors, des fois, pour mon équipe, c'est dur.
C'est compliqué.
Ouais, je suis un peu dure à suivre parce que quand... ça y est, ils savent faire un... Ah bah non, on fait autrement. Donc, ça c'est je reconnais que ce n'est pas toujours facile.
Ouais.
Et après, je crois que je ne suis pas du tout dans un rapport intellectuel à l'art.
Mm-hmm.
Je suis vraiment dans quelque chose qui est quand même toujours... qui parle assez facilement, qui n'est pas référencé. Je déteste quand on a besoin d'avoir lu ça ou d'avoir telle connaissance pour comprendre quelque chose. Par contre, j'aime les choses intelligentes. Ça, c'est sûr. J'aime quand ça fait travailler un peu la tête.
Ouais.
Et j'aime l'humour. J'aime quand on ne se prend pas au sérieux. Quoi. Mmh. Vraiment, même quand c'est potache. Hein, j'aime les trucs potaches. Hein, ça, c'est voilà, c'est... Je suis bon public, en fait. Hein.
Ouais.
Bizarrement, les gens me disent, mais à force, avec tous les spectacles que tu as vus dans ta vie, tu dois... Ben non, en fait, j'ai l'impression que je suis de plus en plus... ouais, de plus en plus... bon public. Après, bon, il y a des choses qui m'insupportent aussi, hein, bien sûr, mais voilà, je trouve que quand il y a de la générosité, quand il y a de la sincérité, surtout, en fait, dans la démarche, même si, voilà, c'est pas forcément bien fini, j'aime pas ce qui est trop propre non plus.
Ouais.
J'aime pas quand c'est trop léché, qu'il y a rien qui dépasse.
Ouais.
J'aime bien quand ça, c'est un peu rugueux, quand c'est pas une esthétique, tout voilà,
parfaite,
tout est...
Ah oui,
non. Moi, pour moi, c'est un peu comme la nature, faut que il y ait un peu de... Faut un peu qu'il y ait des petits trucs, une petite souche qui dépasse, les feuilles mortes qui font du bruit, voilà, c'est... Donc ouais, je crois que c'est cette voilà, comme je disais tout à l'heure, voilà, j'ai pas été initiée à l'art dans l'enfance, pas du tout. C'est vraiment, j'y suis venue par moi-même, donc voilà, pas dans quelque chose, j'ai pas de formation artistique réelle non plus. J'ai appris sur le tas, donc j'ai aussi la conviction que tout le monde, voilà, que c'est pour tout le monde et que c'est un art de vivre aussi, enfin, et que c'est pas un télo, que c'est pas, et que je veux vraiment que tout ce qui contribue, en fait, à faire penser que ça serait un monde à part, etc. Et parfois, certaines démarches y contribuent. Je passe mon temps, par exemple, tout ce qu'on écrit dans nos plaquettes et tout ça, je passe mon temps à déjargonner. Parce qu'on jargonne, comme tous les métiers. Et je voudrais faire des formations de déjargonnage des métiers de la culture. Parce que, on a, à force d'être un peu parfois en circuit fermé. Donc, j'essaie de lutter toujours tout ce qui contribue à faire penser que c'est pas pour tout le monde, quoi. Si, c'est pour. C'est pour
justement,
tout le monde,
c'est
et c'est drôle et on s'amuse, en fait. Il faut qu'on s'amuse.
Complètement, prendre beaucoup de plaisir dans tout ça.
Il faut vraiment s'amuser, il faut rire, il faut prendre du plaisir. Il n'y a que ça quoi,
qui est important. Comment tu t'inspires? Parce qu'en fait, je me dis, pour créer une programmation, pour faire tout ce que tu fais, est-ce que c'est effectivement le fait d'aller voir plein de spectacles, Ou est-ce que c'est au contraire, on parle de vivant, aller te balader dans les bois et tu t'inspires comme ça?
Ouais, plutôt.
Ouais.
J'ai été voir beaucoup, beaucoup de spectacles. Mm-hmm. Je m'agite un peu moins maintenant.
Ouais.
Et je suis plus concentrée sur justement tout ce qui se passe dans la société.
Mm-hmm.
Et pour voir comment des démarches artistiques résonnent avec ça.
Ouais.
Ce qui se passe dans la société, ce qui se passe dans la nature.
Mm-hmm.
Et de faire résonner, par exemple, là, dans le Médoc, on va créer un projet d'éducation artistique et culturelle pour les enfants. Sur 3 ans. Et là, voilà, je me suis inspirée des paysages du Médoc en disant on va travailler sur la forêt, on va travailler sur l'estuaire, on va travailler sur le littoral. Et après, d'aller chercher les artistes qui résonnent avec ça et qui ont des démarches qui parlent de ça. Sur le fab aussi, j'ai un petit peu là changé ma manière de faire en disant là, c'est une exploration, c'est comment on ouvre de nouveaux chemins et quelle relation on fait avec la géographie et notamment, et ça rejoint le Médoc, la Garonne, l'estuaire.
Ouais.
Et cette Garonne qui traverse Bordeaux et ses affluents avec les Jalles, et là, tout d'un coup, tout se relie. Parce que Saint-Médard-Blanquefort, je l'ai dit tout à l'heure, ouais. La Jalle qui va se jeter dans la Garonne, tous les affluents cachés qui passent sous Bordeaux.
Complètement.
Qu'on voit pas, qu'on peut faire réapparaître, les rives, la relation de la ville avec son fleuve, la relation du fleuve avec l'océan, via l'estuaire, la relation du fleuve avec ses sources en Espagne, là-bas dans les Pyrénées, et voilà, et tout d'un coup, et puis comment tous ces chemins là s'ouvrent, les chemins de la nature aussi dans la métropole. Les chemins de l'eau, les chemins des forêts. Et là, je suis partie vraiment à travailler sur cette question d'ouvrir des géographies, en fait.
Ouais.
De travailler les géographies et de faire résonner les artistes et donc d'aller chercher. Donc, c'est des rencontres hein, avec, évidemment, tout un univers artistique. Des fois qu'on cherche, puis des fois qu'on trouve. Et puis, on se dit, ah mais oui, mais ça, bien sûr. Et qu'on trouve soit tout près ici dans la région, soit au bout du monde en fait, parce que les questions sont les mêmes. Autant je pense qu'on doit faire de l'agriculture et travailler au niveau local, autant les idées et les idées, la recherche scientifique et l'art, lui, doit circuler et avoir des circulations mondiales. Donc je suis pour le local concernant l'alimentation, la production. Mais il ne faut pas confondre, par contre, les idées, la recherche scientifique. Ça doit circuler.
Ouais.
Et ça doit circuler beaucoup.
Ouais.
Et surtout pas se refermer.
On est bien d'accord. quel est le... J'avais une question, mais elle est partie. Quel dommage. T'imagines comment la suite de tout ce que tu fais?
J'essaie de pas trop l'imaginer en fait. J'essaie de travailler un peu et je pense que à ce titre-là, cette période de pandémie nous a un peu donné une leçon. On est quand même dans un milieu, on anticipe 2 ans, 3 ans. Il y a cette injonction parce que par exemple pour faire une création, une compagnie doit se projeter à 2 ou 3 ans en avance. Mais en même temps, c'est un peu un piège des fois où on se décontextualise. C'est-à-dire, on va parler d'un truc et puis finalement, c'est plus l'heure ou c'est plus le moment où on n'en a plus envie. Et puis, c'est le besoin. Là, on a bien vu cette histoire avec le jardin, là, de réconfort. C'est ça dont on avait besoin à ce moment-là.
Ouais.
C'était pas de faire je ne sais quoi d'autre, de faire un grand spectacle pour la scène avec 20 comédiens, etc. qui viendraient du bout du monde où il n'y avait plus d'avion. Enfin bon, bref. donc, j'essaie de... Et ça aussi, des fois, c'est pas facile... pour les gens qui m'accompagnent, de garder quand même des plages où on peut réagir un peu au dernier moment.
Ouais.
On peut un peu improviser, un peu faire des choses comme on les sent. Et puis après, ce que je recherche, et c'est peut-être ce que je, par rapport à ces géographies, c'est un peu de cohérence. Mmh. J'ai besoin, moi, là, dans mon parcours, de remettre un peu les choses en cohérence entre la programmation de la scène nationale, le jardin, le fab, mes passions personnelles, le vélo.
Okay.
Je fais des voyages à vélo, j'adore génial. Le vélo. Enfin, ouais. Voyager à vélo, c'est, pour moi, c'est une vraie aventure de proximité, mais aventure quand même.
Mmh.
Donc là, par exemple, je vais organiser une journée professionnelle au Verdon, dans la nature, avec que des projets, des artistes qui s'expriment sur des projets art et nature. Mais on va faire un parcours d'une quinzaine de kilomètres à vélo.
Mmh.
Et donc ça me fait triper, en fait, de pouvoir... Je rêve d'une rencontre professionnelle à vélo depuis plusieurs années.
Okay.
Et voilà, et en plus, là, avec cette question art et nature qui m'occupe beaucoup en ce moment, comment on fait résonner les choses.
Mmh.
Donc voilà, plutôt c'est une recherche de cohérence pour moi dans mon parcours et dans ce que je peux apporter aux gens, comment je peux accompagner des artistes qui sont dans cette même démarche. Voilà, et que tout ça, c'est pas évident, hein, parce que j'ai un niveau d'activité hyper important. Et de un peu essayer de se poser quand même, malgré tout, de se dire, mais voyons, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est essentiel, où est-ce que je veux aller, quel chemin je prends.
Ouais.
Ouais, c'est ça en ce moment, et comment j'y emmène les gens, c'est ça qui est important pour moi. Et puis toujours de m'apporter à moi aussi dans mes recherches personnelles.
Se nourrir aussi
Bien sûr.
Surtout quand on a des équipes aussi, si on n'est pas nous-mêmes enrichis et nourris, ça va être compliqué d'aller accompagner les autres. Ok. Et quel est le, si y en aurait un à choisir, mais j'imagine que c'est compliqué, un moment artistique que tu retiens parmi tous ceux que tu as pu voir, un moment qui t'a plus marqué, plus ému aussi peut-être. Les deux vont peut-être souvent de pair.
C'est difficile, il y en a tellement.
Ouais.
Il y en a tellement, mais évidemment, on retient toujours un peu les derniers.
Mmh.
On retient les derniers. C'est vrai que cette période de... Je crois que ce moment, juste après le confinement dur de 2020, où on ressort, et avec Cyril Jaubert, Opéra Pagaille, toujours on invente une carte postale vivante avec toute l'équipe de la scène nationale. On avait chacun des lettres. Et ça faisait un peu, tu sais, comme ce qu'il y avait avant dans les gares avec ces lettres qui tournaient. Ouais. Là. Mais là, on le fait à la main.
Okay.
Avec des grosses lettres. Et c'est sur toute la façade du carré, on écrit une carte postale avec la musique qui est jouée en direct du haut du carrelé. Et alors, tout le monde était... C'était vraiment la sortie du premier confinement.
Mai
2020.
Donc, mai 2020.
Et on fait ces lettres et on dit juste un message, on est content de vous revoir. Ça a été dur pour vous, ça a été dur pour nous. Et on espère que vous allez bien.
Ouais.
Et les gens, on voit, alors c'était le jour du marché, mais le marché, c'était la première fois qu'il revenait.
Okay.
Depuis 2 mois, il y avait très peu de stands, il y en avait beaucoup moins que d'habitude. Tout le monde était masqué et on voyait les gens d'en haut. On était sur le balcon et puis sur le toit et on voyait les gens qui pleuraient et nous-mêmes, mais une émotion, un truc, mais c'était fou en fait. Ce premier contact qu'on a fait avec une forme artistique qui était un message, avec la musique, avec je crois que c'était une émotion dingue, quoi.
C'est beau. quel conseil t'aurais à donner à celles et ceux qui nous écoutent? Moi, l'idée, tu vois, c'est de montrer comme tu le fais, et je pense qu'on l'a bien compris, ça fait 1h20 qu'on échange ensemble. Quel conseil t'aurais à donner à celles et ceux, voilà, qui ont une petite voix, qui leur dit vas-y et qui n'osent pas forcément encore se lancer, et quel que soit le projet? Tu vois, je t'avais dit juste avant de commencer, les personnes que j'interviewe, c'est des entreprenantes et des entrepreneurs, et non pas juste des entrepreneurs. Qu'est-ce que t'aurais à leur dire?
Bah de regarder, de venir, de participer, d'être curieux, quoi. C'est vraiment, je crois, la curiosité qui n'est pas du tout un vilain défaut, qui est une très belle qualité. Mmh. Et de faire de... C'est-à-dire, c'est... L'art, c'est aussi... C'est regarder, c'est voir, mais c'est aussi faire. Et on voit bien, là, ici, finalement, là, les frontières entre l'art, le vivant, l'artisanat, tout ça se rejoint. Et dans tous les modes aujourd'hui, de façon de faire, de convivialité aussi, comment tous... Il y a le piano là qui
on commence à être accompagné par la musique, c'est génial.
Voilà, d'oser faire ce qu'ils ont envie à la façon dont ils ont envie de le faire. En fait.
Mmh, ouais. Et je me disais, dans le cadre de tes activités, j'imagine que t'as aussi envie de mettre ta... Enfin, ce que tu fais, c'est mettre ta patte dans le milieu de la culture. Est-ce que t'as aussi envie de le faire plus largement, encore plus? Tu le fais déjà beaucoup, mais est-ce que t'as envie? Est-ce que c'est quelque chose qui viendra ou pas? Est-ce que... Enfin, voilà, c'est aussi de laisser son empreinte dans son secteur, je trouve ça intéressant.
Ouais, après, tu veux dire sur d'autres secteurs ou...
Non, 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 mais dans le milieu de la culture, parce que je vois que la scène, au départ c'était le Carré, c'est devenu le Carré Colonne, c'est devenu une scène nationale. Est-ce que... et puis l'idée à chaque fois, c'est de toucher aussi un maximum de monde. Est-ce qu'il y a encore des étapes pour toucher un maximum de monde? Ou comme tu dis, tu te laisses porter et tu...
Oui, là... oui, c'est de se laisser porter, de voir où ça va, où nous mène cette aventure du jardin, cette aventure dans le Médoc dont on n'a pas parlé, mais on en reparlera une autre fois.
Ou tu peux en parler, hein, si tu voulais en parler.
Les légendes, le vélo, l'océan, voilà, la forêt, la nature, les explorations en tout genre. Oui, c'est... je sens quelque chose, mais et puis ce qui tout ça touche aussi à tout un tas de secteurs, c'est-à-dire c'est la culture mais au sens très large, l'art contemporain, l'architecture. J'ai fait partie d'un jury de sélection de jeunes architectes là qui vont venir travailler sur la question pavillonnaire.
Ouais.
La revanche du pavillon, on parlait du périurbain tout à l'heure. Y a aussi plein, voilà, chez les architectes, plein de trucs assez géniaux. Aussi, ouais. Donc l'agriculture, voilà, donc tout ça, toutes ces convergences, en fait, à plein d'endroits sont assez passionnantes. Je trouve que l'époque est quand même, à certains égards, terrible. Terrible. Et à d'autres, dans les expériences qui émergent partout et toutes les initiatives et toute l'inventivité de tout le monde et particulièrement de la jeunesse, assez génial. Je trouve qu'il y a plein plein d'initiatives et de convergences très intéressantes.
Ouais, cool. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu aimerais qu'on revienne, qu'on n'a pas abordé? Alors, tu parlais du Médoc, si tu veux en parler, avec grand plaisir. C'est toi qui vois. Sinon, on prendra l'occasion un jour, je ne sais pas comment, mais d'en reparler, c'est toi qui...
Oui, oui, oui. Je crois que voilà, c'est un projet qui peut-être... peut-être ce serait Cyril Jobert avec Opéra Paga qui serait le plus à même de... Parce que c'est vraiment une histoire, c'est vraiment une fiction qu'on est en train d'installer à la pointe du Médoc, et je crois que c'est vraiment lui qui en parle le mieux, qui raconte cette histoire.
On fait un petit teaser, alors seulement on fait juste un teaser pour les gens qui nous écoutent.
Ça serait super qu'il puisse la raconter.
Ok, on trouvera un moment. Ouais.
Te la raconter, la raconter à tes auditeurs.
Ouais. Ok. Eh bien, Sylvie, merci beaucoup. Merci. On termine avec ces notes de piano, c'est magique.
Ouais.
On a eu les oiseaux qui continuent et on les a depuis tout à l'heure. On termine avec un piano, c'est beau.
Ouais, merci beaucoup, ça Théo. Fait... Et oui, le piano, c'est mis. Donc, c'est un musicien jardinier. Hein, on en a parlé tout à l'heure.
Ouais.
Et le jardin a ouvert là depuis un petit quart d'heure.
Mm-hmm.
Et effectivement, les premiers visiteurs là sont là.
C'est ça.
Ils viennent semer.
Ouais.
Ils viennent contempler nos nouvelles créations en bambou et tout ça est accompagné par de belles notes de piano.
C'est beau, j'adore. Et donc j'invite tout le monde à venir découvrir, à venir déjà rire, pleurer, sourire, danser, chanter à la scène Caracolone et venir aussi dans le jardin, bien évidemment. Merci beaucoup pour ce moment.
Merci.
À très bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravi d'avoir reçu Sylvie sur le pompon et d'avoir pu un peu plus décortiquer les coulisses du monde de la culture. Elle a passé sa vie à semer des idées, des envies pour faire éclore de beaux projets artistiques et culturels. Alors je vous invite à passer au jardin et découvrir aussi les œuvres proposées sur la scène nationale Carré Colonne. Cet épisode vous a plu ? Eh bien, je vous invite à le partager autour de vous. Le pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du pompon et surtout, d'ici là, soyez curieux et amusez-vous. À très vite !